Applaudissez très fort, juste les hommes. OK, j'entends. Je vais poser la même question avec les femmes. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Applaudissez très fort. Oui, il y a des femmes. Là, j'ai une question juste pour les gars. D'accord? Bon, que vous ayez des enfants ou pas, vous pouvez quand même vous l'imaginer. Alors, que vous soyez marié ou pas, on peut se l'imaginer. Vous avez un fils, puis il s'en vient courir vers vous, puis c'est un jeune garçon, là, haut comme trois pommes, puis il s'en vient, puis il saute dans vos bras, puis il vous serre très fort, puis il vous dit, « Ah, papa, je t'aime tellement. » Hey, ça fait du bien, hein? Le même garçon vient vous voir, puis part à courir, saute dans tes bras, il serre dans ses bras, puis il dit, « Ah, papa, t'es mon héros. J'aimerais tellement ça, être comme toi plus tard. » Qu'est-ce que vous préférez? Que votre fils vous dise, « Je t'aime » ou que votre fils vous dise, « J'aimerais ça être comme toi plus tard. » Alors, levez la main, ceux qui préfèrent se faire dire, puis soyons honnêtes, là, d'accord? Qu'est-ce que vous préférez? Alors, les gars qui préfèrent avoir un gars qui s'en vient dans tes bras puis ils disent, « Je t'aime », levez la main droite. OK, c'est bien. Les gars qui préfèrent que leur fils vienne les voir puis ils disent, « Ah, papa, t'es mon héros, j'aimerais tellement être comme toi plus tard », levez la main. Ouais, là, c'est partagé, c'est partagé. Laissez-moi vous révéler c'est quoi l'étude. L'étude a été menée, puis voici ce que ça a révélé. J'aurais pensé qu'un matin, ça a été plus facile de distinguer entre les deux groupes, j'ai la misère à distinguer c'est quoi qui est le plus, mais en tout cas, l'étude a révélé ceci, c'est que nous, les gars, on aime ça, se faire dire, « Ah, t'es mon héros! » Soyons honnêtes, on aime ça, hein? Se faire apprécier, se faire là comme honorer. Et vous, les femmes, qu'est-ce que vous préféreriez? Voulez-vous que je vous dise? Le contraire. Les femmes veulent se faire dire « je t'aime » et les hommes veulent se faire dire « je veux être comme toi plus tard ». Et savez-vous, c'est Dieu qui nous a fait comme ça. C'est pas pour rien, hein. D'ailleurs, il y a un Américain, un pasteur aux États-Unis qui se promène partout. Il a écrit un livre, Love and Respect, et ça a été sa grosse affaire aux États-Unis. Puis il fait même des tournées en ce moment aux États-Unis pour faire sa conférence de couple. Et voici ce qu'il dit. Ça inspire d'Éphésiens 5. Et c'est pas pour rien que Dieu qui nous a fait, Dieu dit dans Éphésiens 5 que l'homme aime sa femme et que la femme respecte son mari. Dieu sait comment on est fait. Alors, savez-vous pourquoi? L'imitation, là, c'est la forme la plus parfaite de l'admiration. Que quelqu'un veuille t'imiter, c'est le plus beau compliment que tu veux faire, que tu puisses faire. Pas vrai? Que je veux être comme toi. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'ai eu des gens que je voulais imiter. J'avais des gens au football, quand je jouais au football, il y avait des gars que je regardais, puis c'était mes modèles que je voulais ressembler. J'ai pris un cours de guitare classique à un moment donné, puis mon professeur, je le regardais, puis il jouait la guitare, puis je regardais la façon qu'il tenait son poignet. C'était une technique qui s'appelle la Goya. C'est un homme, c'est un joueur de guitare. Il cassait le poignet, c'était une technique. Et puis, je regardais ses poignets, je regardais sa main, ses ongles. Il laissait pousser ses ongles à droite, fait couper à gauche pour pouvoir prendre des cordes. Mais en même temps, je jouais au football. Fait que c'était pas mal dur de jouer au football avec des ongles longs. Mais en tout cas, fait que là, à un moment donné, il a fallu que je choisisse entre les deux. Mais c'est ça, hein, c'est l'imitation est la forme la plus parfaite de l'admiration. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ, qui est 100% Dieu et qui est également 100% homme, est notre modèle par excellence. Maintenant, évidemment, Dieu a toutes les caractéristiques en lui. Il a le côté féminin dans la perfection, il a le côté masculin dans sa perfection, et Dieu veut se faire aimer et il veut se faire imiter. C'est pour ça qu'on a plus d'une fois dans les Écritures saintes ce commandement de vouloir, de rechercher à imiter Jésus-Christ. Si vous êtes avec nous depuis quelques semaines, vous savez que nous sommes en train de répondre à la question qui est justement sur le mur, « Pourquoi suis-je sur terre? » Et nous avons dit il y a quelques semaines que la première raison qu'on a été conçu, la première raison pourquoi on a été créé, c'est pour le plaisir de Dieu. Nous avons été conçus pour le plaisir de Dieu. La deuxième raison, c'est que nous avons été conçus pour faire partie de la famille de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir le troisième objectif de ma vie et de votre vie, la raison pour laquelle nous avons été créés et que nous sommes ici sur Terre. La troisième raison, c'est que nous avons été conçus pour ressembler Jésus-Christ, pour devenir de plus en plus comme Jésus-Christ. D'ailleurs, il y a un verset que j'aimerais qu'on se serve, qu'on regarde ce matin, qui se trouve dans Romains 8, 29. J'aimerais vous lire ce passage, ce verset dans Romains 8, 29, qui dit ceci. « En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés. » Alors, c'est notre destin, les enfants de Dieu. Voici notre destin. « Il nous a destinés d'avance à devenir conformes à l'image de Jésus-Christ. » Ça, c'est la volonté propre de Dieu que nous, ses enfants, nous devenions de plus en plus à l'image de Jésus. Et nous avons tout un chemin à faire, hein? Jésus-Christ est tellement parfait. Dieu veut donc nous changer petit à petit à son Fils, Jésus. Et c'est ce qu'il a toujours voulu. C'était dans son plan divin avant la fondation du monde. Dieu veut que l'on devienne pieux. Il veut que l'on développe notre caractère et que notre caractère change tranquillement, soit façonné pour qu'il ressemble davantage à Jésus-Christ. Un autre passage très important est dans Éphésiens 4, verset 13, qui dit ceci. Bon, le passage, le contexte explique que Dieu a donné des dons, a donné des apôtres, a donné des prophètes, des évangélistes et des pasteurs docteurs à l'Église pour qu'ils puissent s'investir et exercer un ministère auprès de chacun. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, jusqu'à, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. État d'homme fait veut juste dire mature, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors, on a du chemin à faire, voilà notre élan, voilà notre cheminement. Dieu veut que l'on devienne à la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants, emportés à toute vente doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses, par leurs moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons. Souligner ce mot-là est tellement important. Nous allons grandir, nous allons croître à tous égards en celui qui est le chef, Jésus-Christ. C'est donc la volonté de Dieu que l'on parvienne à la stature parfaite de Jésus-Christ. Maintenant, ça veut dire quoi, ça? Croître. Dieu veut que l'on puisse croître, grandir. On dit ça, cette expression-là, grandir. Grandir dans le Seigneur. Ça veut dire quoi, ça? Grandir dans le Seigneur. Là, ça va vous poser une question. Avez-vous grandi cette semaine? Oui? Grandir dans le Seigneur, ça veut dire quoi? Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire de devenir de plus en plus comme Jésus. Alors, cette semaine, avez-vous grandi? Oui, amen. Alors, est-ce que votre caractère a changé un petit peu? S'est-il amélioré un peu? Et est-ce que votre caractère, ce matin, ressemble un peu plus à Jésus-Christ de dimanche passé? Amen. Hey, c'est bon. Je vois qu'il y a beaucoup d'amen. Vous n'êtes pas convaincu? C'est ça, grandir. Grandir, c'est devenir de plus en plus comme Jésus. Est-ce que tu es ce matin un peu plus comme Jésus-Christ? C'est ça que Dieu veut. C'est ça la troisième raison pourquoi tu existes. Devenir de plus en plus comme Jésus-Christ. Le mot « croître » ici dans le verset, et c'est pour ça que je vous ai demandé de le souligner, le mot « croître » ici est vraiment intéressant. C'est que Dieu veut que l'on grandisse à un point tel que toutes les qualités de Jésus-Christ puissent s'incarner tranquillement, prendre forme dans ma vie. Et c'est ça que Dieu veut. Dieu veut que l'on grandisse. En d'autres mots, il veut que l'on prenne de la maturité. Puis là, on doit se poser la question, ça ressemble à quoi de la maturité? C'est quoi la maturité spirituelle? Et la maturité spirituelle se mesure à la lumière de Jésus-Christ. Comment Jésus était, c'est ça la maturité. C'est ça le but. Il est mature à 100%. C'est la maturité spirituelle. On ne veut pas être des bébés dans la foi. Vous savez, il y a bien des gens qui vieillissent, mais ne grandissent pas. Êtes-vous d'accord avec moi? Parce que grandir, c'est de ressembler davantage à l'image de Jésus-Christ. Il y a des gens qui vieillissent toute leur vie, mais ne grandissent pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas davantage à la ressemblance de Jésus-Christ. Parce que c'est ça, grandir. Grandir, c'est d'être plus à l'image de Jésus-Christ. Et tout le processus de croissance s'appelle le discipola. C'est un terme, faire des disciples. C'est ça, c'est le terme discipola. Et vous savez quoi, ça prend une vie entière. Comment Dieu s'y prend-il pour nous faire grandir? Comment Dieu va-t-il nous rendre pareil à Jésus-Christ? Bien, il y a des réponses que nous connaissons déjà. Dieu utilise la parole de Dieu. Il va utiliser la Bible, évidemment. Il va utiliser la vérité pour nous transformer. Si nous voulons vraiment grandir spirituellement, nous avons tout intérêt à pouvoir consulter le livre, la parole de Dieu. Spurgeon disait, ce livre vous gardera de péché ou le péché vous gardera de ce livre. Ce péché, ce livre, la parole de Dieu ne peut pas vous laisser indifférent. Elle aura un impact dans votre vie. Et les vérités de ce livre vont nous transformer. Dieu utilise également d'autres personnes autour de nous. On appelle ça la communion fraternelle. On a vu ça la semaine dernière avec Yannick, l'autre jour. La famille de Dieu. Dieu va servir de la famille de Dieu pour nous aider à grandir, place des gens autour de nous, pour nous encourager, nous exhorter. Et c'est pour ça que nous avons les assemblées maison, pour nous exhorter mutuellement, pour nous encourager. Lorsque ça ne va pas bien, on peut être encouragé par d'autres frères ou d'autres sœurs. Ça, c'est la famille de Dieu. Alors, ce sont des choses que nous connaissons, la Bible, la parole de Dieu, la communion fraternelle, l'Église, la prière. Mais savez-vous que Dieu va se servir de trois autres choses inédites, des choses... Des fois, on ne le réalise pas, parfois on ne connaît pas, on n'est pas sûr, on n'est pas certain, mais c'est vraiment des choses qui, à première vue, ne sont pas agréables. Mais Dieu va même se servir de ces choses-là comme instrument, comme outil pour nous faire grandir. Il y a un verset qui dit dans Romains 8, 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Amen? Toutes choses. Est-ce que ça dit « La plupart des choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Est-ce que c'est ça que ça dit? La plupart des choses, quelque chose, les choses que j'aime concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ça? Toutes choses. Alors, tout, ça veut dire quoi? Ça comprend même les choses qui sont mauvaises, même les choses qui sont négatives. Est-ce que ça comprend les mauvaises choses? Tout, oui. Des choses douloureuses? Est-ce que Dieu peut même prendre des choses douloureuses puis les faire arranger pour que ça soit pour mon bien? Est-ce que des erreurs, est-ce que Dieu peut prendre des erreurs? Est-ce que Dieu peut même prendre des péchés puis changer ça au bien? Ça dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout. Tout. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'est pas dit que tout est bien. Il y a beaucoup de mauvaises choses dans le monde. Mais que Dieu utilise toutes les choses pour me rendre davantage conforme à Jésus-Christ. Et ce matin, je vais vous parler de trois expériences, trois situations que l'on va retrouver dans la vie de Jésus et dont Dieu va se servir pour nous affermir, pour nous faire grandir dans la foi, davantage à l'image de Jésus-Christ. On a dit tantôt que Jésus-Christ était 100% Dieu, mais Jésus-Christ était 100% homme et dans son humanité, Jésus a eu besoin de grandir. Êtes-vous d'accord avec ça? Ça le dit dans le texte, dans Luc 2, 52. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que Jésus croissait, vous voyez le mot ici? Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus était un homme parfait. Jésus a grandi, il était jeune, puis il a grandi en sagesse. C'est-à-dire qu'il s'est développé intellectuellement. En stature, il a grandi, il a pris la maturité physiquement, il a grandi. Et il a grandi en grâce. Devant Dieu, plus en plus qu'il vieillissait, plus en plus qu'il plaisait à Dieu, mais aussi en grâce devant les hommes. C'est-à-dire que socialement, tu voulais être l'ami de Jésus. Lorsqu'il commençait à te parler de ça, tu te collais à lui. Tu veux être un ami de Jésus-Christ parce qu'il a grandi en faveur devant les hommes. Voyez-vous ici le mot « croître », c'est un mot très intéressant, « prokopto » dans l'original, dans le grec, utilisé plus de 6 fois dans le Nouveau Testament. Et c'est un mot très intéressant. On va s'en servir ailleurs dans le Nouveau Testament, et à chaque fois, ça va parler de la croissance soit d'un enfant qui grandit ou d'une fleur, comme on a vu tantôt, qui a poussé et qui grandit. Le mot est intéressant. Dans l'original, il veut dire, le mot peut être traduit par « aller de l'avant »,« avancer »,« procéder »,« progrès »,« battre de l'avant ». Je vous ai montré la photo d'un forgeron ici qui frappe du métal. Et c'est intéressant parce que le mot ici veut dire « allonger par martelage ». Tu prends un fer et tu le frappes dessus pour qu'il prenne une autre forme. Le fer ne vaut pas grand-chose comme ça dans son état brut, mais à mesure que tu le frappes et tu lui donnes une forme, il va prendre une valeur supplémentaire. D'accord? Et parfois, Dieu est obligé de nous donner des coups de martelage dans notre vie pour nous réveiller. Et il va permettre des situations douloureuses dans notre vie pour travailler notre vie, notre cœur, notre être, pour nous faire grandir, pour nous faire croître. Oui, il utilise la parole de Dieu. Oui, il utilise la prière, l'Église. Il utilise des frères et sœurs. Mais il va se servir de 3 situations douloureuses pour marteler notre foi et nous conformer dans une autre image, celle qui est à la ressemblance de Jésus-Christ. Écoutez, vous voyez un marteau ici. Est-ce que ça fait mal, un marteau, quand on se frappe sur les doigts? Imaginez un marteau qui frappe votre vie. Et c'est des situations que Dieu va permettre, 3 situations qui sont comme le forgeron qui travaille un peu notre caractère. 3 situations que l'on retrouve dans la vie de Jésus. Premièrement, Jésus a subi les tribulations dans le jardin de Gethsémané et ailleurs. Il a été persécuté. Les épreuves. Jésus a connu les épreuves. Il a été tenté dans le désert. Alors, la tentation. Les épreuves, la tentation. Et troisièmement, Jésus a été offensé. Et dans sa vie et sur la croix. Si nous voulons grandir et être comme Jésus-Christ, Dieu va permettre que ces 3 expériences, dans d'autres contextes, aient lieu dans notre vie pour justement marteler notre caractère. Ce qui est très important ici, et j'aimerais ça avoir un silence révérentiel, solennel, et que vous puissiez écouter cette phrase. Ce n'est pas automatique. Les mêmes expériences, si elles sont dans votre vie, si vous connaissez des moments d'épreuve, des moments de tentation, et que vous êtes offensé par d'autres, ce n'est pas automatique que ces 3 événements dans votre vie vont vous faire grandir. Ça dépend d'une chose, ton cœur. À quelque part, tu dois décider. Tu dois prendre la décision de dire au Seigneur, « Seigneur, je veux que tu me changes et je veux que tu te serves même des épreuves, même des tentations, même de l'offense des autres lorsque les autres me font du mal, pour que tu puisses me changer pour être plus à la ressemblance de Jésus-Christ. Parce que sinon, tu vas devenir amer. Vois-tu? Les mêmes expériences dans la vie d'une personne peuvent le rendre amer. Les mêmes expériences dans la vie d'une autre personne, que son cœur est consacré à Dieu, vont le faire grandir. Amen. Êtes-vous d'accord avec ça? Absolument, hein? On a passé par là. La première situation, la première expérience que Dieu va servir, évidemment, c'est les épreuves. Dieu utilise les épreuves pour nous apprendre quoi? Ils ne sont très chers que nous avons besoin d'apprendre, c'est de faire confiance à Dieu. Oui, Dieu utilise les épreuves pour nous apprendre à lui faire confiance. Ce n'est pas plaisant d'avoir les épreuves, d'avoir des situations que Dieu va placer dans nos vies, mais c'est pour nous aider à nous rapprocher de lui. Leur intention n'est pas de nous blesser. Dieu ne veut pas nous blesser. Dieu nous aime. Ses intentions n'est pas de nous éloigner de lui, de nous briser, nous humilier. Dieu est là pour nous aider. Et il va, oui, se servir de certaines épreuves qui vont tomber dessus, qui vont te tomber dessus, pour t'emmener davantage à la ressemblance de Jésus-Christ. Romains 5, 3 dit ceci, « L'affliction produit la persévérance. » Et encore une fois, ça prend un bon cœur pour ça. Ça prend un cœur décidé. Ça prend un cœur qui a cette volonté-là de vouloir ressembler davantage à Jésus-Christ. Mais si tu as ce cœur-là, voici ce que ça dit. « L'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Dieu dit que le but de la vie, c'est le caractère. Ce n'est pas notre carrière. Il y a des gens que leur but dans la vie, c'est juste d'avoir du succès dans la vie. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas la carrière qui est le plus important pour Dieu. Aux yeux de Dieu, ce qui est important, c'est ta vie, c'est ton caractère. Des fois, il y a toutes sortes de problèmes qui vont se présenter dans notre vie. Puis là, tu vas te poser la question, pourquoi ça m'arrive, Seigneur? Pourquoi moi? Je ne mérite pas ça. Pourquoi ça me tombe dessus? Ça peut peut-être t'aider à réaliser une chose, c'est que le but de ta vie n'est pas le confort. Si le but de ta vie était le confort, évidemment, tu vas être malheureux lorsque l'épreuve arrive. Mais c'est que ça peut t'aider à te souvenir, lorsque l'épreuve frappe, que le but de ta vie n'est pas le confort, mais c'est d'être changé à l'image de Jésus-Christ. Là, à ce moment-là, ça nous aide à accepter les quelques épreuves qui peuvent nous tomber dessus, parce que nous allons être confiants et tranquilles, nous allons nous rappeler que Dieu est en train de nous changer et nous façonner pour être davantage à l'image de Jésus. Vrai? Et l'une des choses nécessaires dans notre vie, c'est l'épreuve. Car c'est dans l'épreuve qu'on va grandir. On apprend à connaître Dieu davantage dans l'épreuve. Dieu ne gâche jamais une épreuve. Souvenez-vous de ça. Dieu ne gâche jamais une épreuve. Il va s'en servir pour te changer davantage à l'image de Jésus-Christ. Regardez Jésus dans le jardin de Gethsémané. Nous lisons dans Marc 14, 32, que Jésus est allé ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » C'est intéressant que Jésus emmène les disciples avec lui, puis il voulait les avoir avec lui. On a besoin de bons amis qui aiment Dieu. Vrai? Même Jésus, imaginez, n'a pas voulu aller dans le jardin tout seul. Il voulait aller avec ses amis. C'est pour ça qu'on a justement des assemblées maison. On veut vous encourager à créer de bons liens avec d'autres frères et sœurs. Marc 14, 34, continue en disant, « Jésus commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Et il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez, les frères. » Imaginez Jésus qui fait de l'angoisse. Et si Jésus fait de l'angoisse, lui qui était parfaitement homme, puis qui était parfait dans son humanité, combien à plus forte raison nous-mêmes, parfois, ça va nous arriver, où nous allons connaître des épreuves qui vont nous occasionner de l'angoisse. Mais Jésus pensait évidemment à ce qui s'en venait le lendemain. Jésus pensait à lorsqu'il va être trahi, il va être emmené, qu'il va porter tout le poids du péché sur ses épaules. Et comment tous vont l'abandonner et pour un moment, pour la première fois dans l'éternité, Dieu allait subir la colère de son Père. Imaginez, Jésus-Christ allait connaître une séparation d'avec le Père. Le même Jésus que l'on voit dans Jean 1:1 qui était avec le Père, et le mot dans l'original est intime, face à face, il jouissait d'une communion tellement intime avec son Père. Et pour la première fois dans l'éternité, Jésus allait porter tout le poids des péchés des hommes sur la terre, sur lui, sur ses épaules, et que là, la colère de Dieu allait être déversée sur lui, son propre Fils. À la pensée de tout ça, ce qui s'en venait, la lourdeur de tous les péchés du monde qui allait être sur ses épaules dans quelques heures. Jésus fait de l'angoisse. Et il va dire, même, il va faire une prière au verset 36. « Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Oh, si tu peux éloigner de moi cette épreuve, je t'en supplie, éloigne cette épreuve de moi. Je ne veux pas me retrouver à connaître ta colère sur la croix. » Je ne veux pas que tu te mettes en colère contre moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Nous voulons ressembler à Jésus-Christ dans cette prière. C'est tout à fait humain de dire, Seigneur, moi, j'aime pas cette épreuve-là. Moi, j'aime pas ce que je subis en ce moment, ces douleurs, ces souffrances. J'aime pas ça, Seigneur. Ça, c'est humain. Jésus a fait cette prière. J'aime pas ça. Si tu peux éloigner cette épreuve, c'est sûr, Seigneur. Éloigne-la, Seigneur. C'est une bonne prière. Jésus a fait cette prière. Mais il a aussi fait, Seigneur, non pas ma volonté, mais accomplis ta volonté dans ma vie. Et c'est à ça où Jésus, où Dieu veut nous emmener à la ressemblance de Jésus-Christ. D'aller même à ce niveau-là de consécration, à la ressemblance de Jésus-Christ. De dire, j'aime pas ça, c'est douloureux, mais sers-toi de cette épreuve, Seigneur, pour accomplir ta volonté dans ma vie. Comme Jésus l'a fait, Dieu utilise les difficultés de la vie pour nous apprendre à lui faire confiance. Et c'est des moments difficiles et douloureux, et c'est dans ces moments d'épreuve et de douleur que Jésus a connu cette grâce, hein, cette grâce dans ce jardin de Gethsémané où il a eu la grâce de Dieu, les soins particuliers de Dieu. Et encore là, il a pu se coller à son Père, et c'est ce qu'il a fait. Eh bien, lorsque il vous arrive d'avoir des épreuves dans votre vie, la question est celle-ci, qu'est-ce que tu veux m'enseigner, Seigneur? Qu'est-ce que tu es en train d'accomplir dans ma propre vie pour me ramener davantage à la ressemblance de ton Fils? Mais rappelez-vous de la récompense qui s'en vient lorsqu'on tient bon. 2 Corinthiens 4, 17 dit, « Nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire qu'elles nous préparent. » Savez-vous que nous allons être récompensés pour tous ces moments de douleur et d'épreuves auxquels on est confrontés en ce moment? La récompense s'en vient, frères et sœurs. Rappelez-vous de ça. Alors, c'est tellement important pour nous d'accepter l'épreuve avec cette confiance en Dieu que Dieu est en train de nous changer. Tranquillement. Parce qu'il y a des récompenses à ça un jour que nous allons recevoir. Et vous savez, cette vie est parfois difficile, mais c'est passager à comparer aux milliards d'années qui s'en viennent. Amen. Dans la gloire où il n'y a plus de souffrance, plus de douleur. Vrai? Alors, rappelez-vous que Dieu ne garde jamais une épreuve. Il est en train de se servir de cette épreuve pour vous transformer davantage et devenir comme son Fils Jésus. C'est incroyable de voir comment Dieu peut se servir des épreuves pour même travailler notre vie. On va entendre le témoignage de notre chère sœur Colette Villeneuve. Certains la connaissent, d'autres pas, qu'elle a déjà eu un cancer et tristement, maintenant, elle a récidivé, elle a un deuxième cancer, et alors qu'elle se prépare à subir les traitements, elle dit ceci, comment Dieu a touché sa vie.
Le premier verset qui m'est venu quand j'ai appris le cancer, surtout après le premier traitement, c'était dans Jean qui dit « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, car l'épreuve va produire la patience et la persévérance. » Moi, ce verset-là, je le connaissais comme beaucoup d'entre vous, mais je n'avais jamais vraiment vécu au travers de la maladie. Et je m'essayais d'imaginer comment je pouvais vivre ça dans la joie de mourir pareil. Mais c'est au travers de la proximité de Dieu que Dieu s'est approché de moi d'une façon spéciale au travers de cette épreuve-là du cancer. C'est pas une chose qui est facile, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des combats et spirituels et physiques, mais je vous dis que Dieu a produit une attention spéciale dans mon cœur pour se rapprocher de moi et moi se rapprocher de lui. D'abord par le cœur, on entend sa voix plus profonde et par la prière. Mais surtout, c'est un travail qui est fait de l'intérieur. toute la famille et les frères et sœurs dans l'église. J'ai vu la puissance de la prière au travers de ça parce que, oui, alors je priais, j'avais des réponses. Mais Dieu vraiment s'approche de nous avec son cœur, son esprit, puis on sent dans le cœur sa voix par l'Esprit Saint qui nous parle. Et pour moi, ça va détourner les yeux des choses futiles, de toutes ces vanités qu'Ecclésiaste parle. Souvent, quand on est en bonne santé, on vit notre vie quotidienne avec le Seigneur. On a un témoignage, oui, c'est vrai. Mais cette proximité-là, que ce soit l'épreuve qu'on peut vivre, soit de la maladie, soit d'un deuil, soit de la perte d'un conjoint, peu importe. C'est cette proximité, cette voix de Dieu qui se fait entendre à l'intérieur. Puis je crois que c'est vraiment une façon spéciale que Dieu nous met à l'écart. Et il fait un travail de purification. Et vraiment de sanctification dans ma vie. Je vois des choses maintenant que je n'ai pas les mots pour exprimer, mais j'en vois aussi à long terme dans ma vie. Fait que, en gros, c'est ça. Puis je sais que si je n'ai pas cette relation vraiment intime avec le Seigneur dans la prière, je ne pourrais pas être allégrée. Puis le verset qui est mis sur mon cœur aussi, avant de rentrer à l'hôpital pour cette recherche-là, c'était dans le psaume 71. Ça a vraiment été gravé dans mon cœur, puis ça dit que l'Éternel est mon rocher, qu'il soit toujours un asile où je peux aller me retirer. Et c'est vraiment ça qui a été mon secours là-dedans, c'est me retirer dans la présence de Dieu, puis dans la prière, dans les moments de découragement. C'est ça en gros que le Seigneur fait dans mon cœur, dans ma vie présente.
Alors, selon vous, la souffrance, les épreuves sont utiles?
Glorifier le Seigneur, puis vraiment faire une œuvre, vraiment de sanctification, de croissance, que oui, on va avoir dans une vie d'abondance, mais également dans une vie d'épreuve et de souffrance, puis qu'on a juste à lire les épîtres de Paul pour s'en rendre compte.
Merci beaucoup, madame.
Bonjour, Mathieu.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que Dieu peut se servir d'un cancer pour nous faire grandir? Est-ce que Dieu peut se servir d'un deuxième cancer pour nous faire grandir à l'image de son Fils? Vous êtes près de Colette et vous vous imaginez que le Seigneur, en tout cas, n'est pas tellement loin. Elle reflète l'amour de Dieu et la gloire de Dieu dans sa vie. Quel témoignage! Et prions pour elle, que Dieu puisse l'aider dans ces moments difficiles de santé. Oui, Dieu utilise les épreuves pour nous aider à nous changer, nous apprendre à lui faire confiance. Mais Dieu va se servir aussi des tentations, imaginez-le, des tentations pour nous aider à grandir. C'est une manière très étonnante que Dieu va se servir pour nous rendre semblables à son Fils, qui va même se servir des tentations. C'est pas que Dieu nous envoie des tentations pour nous faire tomber, nous faire chuter. C'est le malin, c'est le diable qui nous envoie des tentations. Mais Dieu va même se servir de ça, surtout de notre obéissance face aux tentations, pour tranquillement nous changer, nous modeler. Évidemment, nous savons, nous nous rappelons des paroles que nous lisons dans Matthieu 4:1, où nous voyons Jésus être emmené dans le désert par l'Esprit Saint pour être tenté par le diable. Alors, si Jésus a été tenté, savez-vous quoi? Vous et moi, nous allons être tentés. Nous allons avoir des tentations régulièrement dans notre vie et ça finit jamais. Deux choses à retenir. Premièrement, ce n'est pas un péché que d'être tenté. La tentation comme telle n'est pas le péché. C'est comme Martin Luther disait, tu ne peux pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux l'empêcher de faire un nid sur ta tête. C'est que la tentation va arriver, elle va se promener, elle va arriver dans ta vie. Mais tu n'es pas obligé de mordre dedans et embarquer dedans. C'est ça que Jésus dit. Il dit dans sa prière, dans Matthieu 6, « Ne nous induis pas en tentation, ne nous laisse pas tomber dedans. » Il ne dit pas qu'on n'ait pas de tentation. Avez-vous remarqué que ce n'est pas écrit ça dans la prière? Celle dit plutôt « Ne nous induis pas, ne nous laisse pas mordre ou accrocher. » La tentation, c'est ça. C'est le diable, oui, succomber. Et le diable veut nous faire tomber. C'est le diable qui veut nous faire chuter. Nous lisons de l'Apocalypse que le diable est appelé l'accusateur des saints. Il veut constamment nous accuser, constamment nous écraser. Ça, c'est pas Dieu qui veut faire ça. Mais Dieu va se servir de la tentation, dépendamment de ton attitude, pour t'emmener davantage à la ressemblance de son Fils. Nous voyons Jésus être tenté dans le désert. Et comment Jésus répond dans Matthieu 4, 10, il dit, « Jésus dit à Satan, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Jésus a fait face à la tentation. Il a résisté à la tentation. Il a repoussé les assauts du diable, et il a été vainqueur. Parfois, on est tenté par le matérialiste. On veut toujours avoir plus. L'argent, hein, aujourd'hui, c'est tellement rendu un des cours qui se vend le plus à l'université. C'est quoi? C'est l'économie. Tu n'avais pas ça avant. C'est nouveau. C'est toujours l'économie. L'argent, tout, même les décisions politiques sont toujours faites maintenant en fonction de l'argent. C'est plus en fonction de code d'éthique ou de valeur. C'est fait en fonction de l'économie. Tout est décidé à la lumière de l'économie. Mais parfois, on est touché par ça et on tombe dans ce piège-là, où on veut toujours plus, on veut plus d'argent et tout ça. Parfois, on met l'argent plus important que Dieu même. Et des fois, même, on voit ça dans les offrandes. Hein, des gens, parfois, qui ne donnent pas à l'offrande. On peut comprendre lorsque vous n'avez pas d'argent, et on comprend ça, certainement, Dieu comprend ça, mais si vous avez revenu régulier de ça, Dieu nous demande dans les Écritures de donner la dîme, donner le 10% de son revenu. Tu sais, Marcel Côtenoir, qui est un pasteur, un pionnier au Québec, a déjà dit ceci. Il a dit, tu sais, quand Dieu touche ton cœur, là, sais-tu qu'est-ce qu'il touche? Quand Dieu touche ton cœur, là, il touche ton portefeuille. Ben, le mien est ici, mais en tout cas, il est là. Dieu, quand Dieu touche ton cœur, il touche ton portefeuille. Ça va avoir un impact sur tes décisions financières. Es-tu d'accord avec ça? Absolument, ça va avoir un impact, la façon que tu vas gérer ton argent, la façon que tu vas donner ton argent, ce que tu fais avec ton argent. On peut voir juste par la façon qu'une personne va gérer son argent, on peut voir son cœur. Tentation, hein? On peut être tenté par toutes sortes d'autres choses aussi, la tentation, par le succès. On peut avoir par la tentation d'avoir des relations, de mauvaises relations. Maintenant, comment faire face à la tentation? Comment on peut faire face à ça? Premièrement, concentrez-vous sur des bonnes pensées. Philippiens 4, 8. Lorsque la tentation vous frappe, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, c'est ce que Jésus a fait dans Matthieu. Il a répondu avec la parole de Dieu. Donc, s'il a répondu avec la parole de Dieu, c'est qu'il pensait à la parole de Dieu. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est logique, hein? Alors, Philippiens 4, 8 dit que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, soit l'objet de vos pensées. Nous avons besoin parfois de sanctifier nos pensées, de changer de pensée. C'est sûr que si tu penses juste à la tentation, tes pensées seront centrées sur la tentation, puis tranquillement, tu vas mordre. Refuse, déclare la guerre à cette tentation-là. Refuse d'y penser même. Change tes pensées et concentre tes pensées aux bonnes choses. Aie de bonnes pensées. Deuxièmement, c'est bon aussi de te trouver un bon partenaire, un bon ami de confiance, spirituel, qui aime le Seigneur. C'est toujours bon d'avoir des bons amis. Tu n'en as peut-être pas 10 comme ça t'en prend un parfois, ou deux. Avoir un partenaire spirituel qui est là, qui te comprend. Il ne sera pas toujours d'accord avec toi, mais il est là pour t'appuyer dans la prière. Ecclésiaste 4 dit ceci, « Deux valent mieux qu'un, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. » Oui? Paul a beaucoup résisté à plusieurs tentations, puis c'est intéressant que lui avait plusieurs amis spirituels. D'ailleurs, il prend même le temps de les nommer. Il va nommer Barnabé, Marc, Apollon, Timothée, Paphras et Tite. Paul avait des bons amis spirituels. Il n'était pas tout seul, il n'était pas isolé. Il avait des bons amis spirituels. Et toutes ces personnes que Paul a invitées dans sa vie étaient une des raisons pour lesquelles il a été capable d'avoir une vie merveilleuse de foi et de victoire. Il n'avait pas peur de se faire accompagner par des partenaires dans sa vie, par des amis spirituels. Il n'a pas peur de ça. À quelle tentation faites-vous face cette semaine? Est-ce qu'il y a une tentation en ce moment? Comment Dieu va-t-il se servir de cette tentation-là si vous choisissez de lui obéir comme une occasion pour renforcer votre caractère? C'est une occasion merveilleuse en ce moment. Si vous êtes tenté, si vous êtes dans une situation où vous êtes tenté, bien dites gloire à Dieu. D'accord? Parce que si vous obéissez à Dieu et vous affrontez cette tentation dans la victoire, vous obéissez à Dieu, Dieu va vous changer tranquillement à son caractère. C'est incroyable comment est-ce qu'on peut apprendre lorsqu'on est dans la tentation et dans l'épreuve, comment on peut apprendre à grandir dans la foi. C'est intéressant, je lisais l'histoire, j'en viens de lire un livre de plusieurs méditations là, de journalières venant de missionnaires partout à travers le monde. Et puis, il y a un jour, il y avait eu en Afrique du Sud un moment de sécheresse. Un moment de sécheresse tellement forte qu'il n'y avait même plus d'eau dans les ruisseaux. Les ruisseaux puis les rivières, c'était tout sec. Puis c'était même, on voyait le fond, on pouvait marcher dans le fond de la rivière. Puis il y avait des trous, puis tout ça, c'était tout sec. Et c'était un temps de sécheresse, c'était pas la saison des pluies. Et puis, les gens ont même été creusés dans le bas fond de des rivières, très creux, pour essayer d'aller chercher de l'eau, mais il n'y a rien à faire. Les animaux ont commencé à mourir, c'était tellement sec que les animaux ont commencé à mourir. C'était évident maintenant que le prochain, c'était les gens, les villageois. Alors, les villageois ont commencé à courir pour aller chercher le sorcier de la ville, du village, pour lui demander de convoquer, d'organiser une danse de la pluie, pour commencer à prier le Dieu de la pluie et prier les ancêtres qui sont morts pour demander que la pluie puisse tomber. Une des jeunes qui était au village a commencé à courir pour aller chercher un des missionnaires qui était là. Et alors qu'elle était dans, elle était une jeune chrétienne, elle venait juste de se convertir, puis était dans l'angoisse, dans la tristesse, elle était nerveuse. Elle est partie aller voir le missionnaire, puis elle a commencé à crier, elle se demandait qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire. Les villageois ont commencé à convoquer le sorcier pour qu'il fasse une danse de la pluie. Le missionnaire, qui avait quand même plusieurs années dans la foi, a simplement dit, il avait cette tranquillité, cette confiance en Dieu, a simplement dit, écoute, ne t'énerve pas, aie confiance. On va prier ensemble, on va demander aux chrétiens de venir, puis on va demander au Dieu Tout-Puissant. Dieu sait qu'on a besoin de la pluie. On va demander au Dieu du ciel, le grand Dieu Tout-Puissant, de faire tomber de la pluie. Alors, ils ont convoqué une réunion de prière, quelques chrétiens qui étaient là. Et avant la fin de la journée, il commençait à avoir une pluie torrentielle qui a tombé, qui a duré pendant une semaine. Et la pluie a commencé à tomber avant que la danse de la pluie puisse être organisée. Et les gens ont commencé à se retourner de bord, puis regarder les chrétiens, puis ont commencé à dire, « Ce Jésus est le Dieu Tout-Puissant. » Et ça a eu un impact dans tout le village. Mais cette jeune chrétienne qui était angoissée, qui avait peur devant cette sécheresse et cette épreuve qui tombait sur le village, a appris par cette expérience, en faisant la bonne chose et en allant prier avec le missionnaire, elle a appris, elle a changé un peu maintenant, elle a grandi, son caractère a gagné de la confiance en Dieu. Dieu, et on va terminer sur ce dernier point, Dieu utilise même des offenses pour nous apprendre à pardonner. Oui, même des fois, il y a des gens qui t'aiment qui vont te faire du mal. Et ça va arriver. Dieu va même se servir de ça. Nous lisons dans Romains 8, toutes choses concourent au bien. Même le mal que des gens qui vont te faire. Peut-être que tu travailles dans un bureau puis il y a des gens qui te font du mal en ce moment. J'ai reçu le téléphone d'une femme d'affaires qui m'a téléphoné, elle me cherchait d'avoir un avocat, parce qu'il y a des gens en ce moment qui l'emmènent en cours, qui veulent lui faire du mal. Elle est prise là-dedans, dans sa business, et elle voulait avoir le nom d'un avocat chrétien pour l'aider. Elle doit se défendre d'ici vendredi. Et oui, Dieu va même prendre des gens autour de toi, peut-être à ton bureau, pour te faire du mal. Et on voit Jésus, hein? Lorsqu'il était mis sur la croix, les gens l'injuriaient, sacraient après lui, même les larrons sacraient après lui, l'injuriaient, alors qu'il est sur le bord de la mort. Et s'il y a une personne qui a souffert, puis il y a eu plusieurs personnes qui l'ont rejeté, qui l'ont persécuté, c'est bien Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait à la croix? Il a fait une prière pour les mêmes ennemis qu'il avait mis sur la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Et Dieu veut que l'on vienne à la place d'apprendre à être comme Jésus et de pouvoir pardonner même ceux qui nous font du mal. 1 Pierre 2, 23 dit, « Pour lui, injurier ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui est juge, justement. » C'est ce que Jésus veut accomplir dans ta vie. Deux choses pour t'aider à pardonner ceux qui t'offensent. Souviens-toi que Dieu t'a pardonné. Souviens-toi que Dieu t'a pardonné. Il t'a pardonné plus que le mal que des gens pourraient faire à toi. Réalises-tu ça? Si quelqu'un vous blesse, si quelqu'un vous veut du mal, Dieu vous a déjà pardonné beaucoup plus que le mal que cette personne va vous faire. Deuxièmement, souvenez-vous que Dieu est au contrôle. Dieu contrôle tout. On pense à Joseph, hein, dans Genèse 50, où Joseph a été trahi par ses propres frères, vendu comme un esclave en Égypte. Et vers la fin de sa vie, lorsque ses frères vont retrouver le ministre des Finances, qui s'adonne, c'est Joseph, qu'ils avaient perdu de vue, pensaient qu'il était mort depuis des années. On voit que Dieu s'est même servi de toutes les épreuves qu'il avait subies pendant 40 ans, Joseph. Une vie de misère. Que Dieu s'est même servi de ces épreuves pour faire du bien au peuple et sauver deux nations, l'Égypte et Israël. Et Joseph de dire dans chapitre 50, verset 2, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » On peut apprendre à pardonner ceux qui nous ont offensés. Voici le témoignage d'une jeune fille de 17 ans qui a subi un abus sexuel. Une jeune fille de 17 ans écrit une lettre à son pasteur décrivant comment elle a été maltraitée par son voisin d'en face pendant des années. Elle était la victime d'un abus sexuel et elle a gardé le secret pendant des années. Mais ce voisin finit par être arrêté par le viol d'une autre femme et il a été emprisonné et elle fut appelée en tant que témoin au tribunal pour parler de son expérience lorsqu'elle était adolescente. Voici ce que dit la portion de sa lettre et comment elle résume toute cette expérience d'abus sexuel. Pasteur, en permettant à Dieu de prendre contrôle et de soulever le fardeau de ma souffrance de mon cœur, Dieu m'a raffermi. Aujourd'hui, je peux vraiment dire, en raison des épreuves que j'ai affrontées, j'ai été affermi. J'ai lu récemment un livre intitulé « Où est Dieu quand ça fait mal ?» Et j'ai trouvé une phrase que je trouve très vraie. Il est dit « La foi en Dieu ne procure aucune assurance contre les tragédies, mais la souffrance procure dans tous les cas une occasion d'afficher l'œuvre de Dieu. » Une femme qui est abusée sexuellement rend ce témoignage à l'endroit de Dieu et l'épreuve qu'elle a connue. Chers amis, j'aimerais ce matin que l'on prenne une décision ensemble. Nous allons prendre la Sainte Cène et nos frères vont venir pour distribuer les éléments de la Sainte Cène. Et je pense que c'est une occasion en or que nous avons ce matin de faire cette prière très simple à Dieu. Oui, Dieu. Oui, Dieu, sers-toi des épreuves. Sers-toi même des tentations dans ma vie. Sers-toi même du mal que les gens vont me faire. Pour me changer et que je grandisse pour devenir de plus en plus comme Jésus. Êtes-vous capable de faire cette prière ce matin par la foi, de dire « Oui, Seigneur, j'abandonne ma vie à toi. Fais ce que tu veux avec ma vie. » Et si ça demande que des épreuves me tombent dessus ou que des gens autour de moi me fassent du mal ou qu'il y ait des tentations, sers-toi, Seigneur, de même ces choses-là pour transformer mon caractère. Pendant que nos frères pensent la Sainte Cène, il y a peut-être des gens dans l'Assemblée, qui ont connu ça, ont connu des épreuves, puis que Dieu s'est servi des épreuves pour nous transformer, nous changer. C'est possible. Et j'aimerais vous donner l'occasion, peut-être, pendant que nos frères passent la Sainte Cène, de donner un petit mot de témoignage. Comment Dieu se serait peut-être servi d'une épreuve dans votre vie pour vous changer, pour vous rendre un peu plus comme Jésus. Ou peut-être que Dieu s'est servi d'un passage, ou peut-être que Dieu s'est servi des tentations, peut-être que Dieu s'est servi de personnes autour de vous qui vous ont fait du mal. Mais vous avez grandi à travers ça. Avez-vous un témoignage à donner? On a installé des micros et il y en a un qui se promène ici. Jean-Paul, si tu veux te lever, il y a un micro ici, on va aller vous voir. Est-ce que quelqu'un aimerait donner un témoignage? Oui, Jean-Paul, vas-y. Tu peux te lever, Diane, s'il te plaît? Diane, Langevin.
Moi, je voudrais remercier le Seigneur d'être ici aujourd'hui parce que moi, j'ai eu une grosse épreuve. J'ai perdu une fille de l'an passé qui était allée faire une activité au Kilimanjaro avec son mari et des amis chrétiens. Et elle est décédée là-bas, en haut du Kilimanjaro. Il lui restait 2 heures à monter. Il était au sommet. Et j'ai appris, elle est partie le dimanche matin. C'est-à-dire, elle est partie le dimanche, oui, c'était le 1er janvier. Puis elle m'a appelée pour me souhaiter bonne année. Puis elle m'a dit, au moment, c'est tellement beau ce qu'on fait, le voyage en Afrique. Il avait fait le safari pendant toute la semaine. Et le 3 janvier, il commençait à monter. Elle dit, j'ai tellement hâte de revenir, maman, pour tout vous dire. Elle dit, dis bonjour à papa, mes sœurs. Puis elle dit, j'ai tellement hâte, elle dit, de vous raconter tout ce qu'on a vu. Elle dit ça. Puis elle était toujours drôle, en farce. Puis je veux vous dire avant tout qu'elle a accepté le Seigneur à l'âge de 13 ans, cette fille extraordinaire. Et puis elle a toujours suivi son Seigneur avec une foi inébranlable. Et Dieu l'a repris. Et moi, j'ai accepté le Seigneur en 78. En 1978, et puis elle est venue au Seigneur par moi qui lui ai apporté la parole. J'ai suivi le Seigneur pendant 10 ans avec mon mari et il s'est passé des choses justement qui fait référence au message de ce matin que dans la vie, il y a des tentations, il y a des choses qui se passent et puis Dieu éprouve notre foi. Et moi, j'ai continué toute seule pendant des années et par des choses qui s'est passé, mon mari n'a plus voulu continuer. Mais moi, par la mort de cette fille que Dieu a repris, Dieu m'a tellement parlé par cette épreuve. J'ai eu j'ai pleuré pendant un an et en 2006, qui est au début de cette année, j'ai vraiment remis ma vie dans les mains du Seigneur et je lui ai dit, Seigneur, tu as permis par cette dure épreuve que je revienne à toi. Et il fait des choses extraordinaires dans ma vie depuis. Puis c'est vous dire que perdre un enfant, c'est pas... pratiquement pas explicable. J'avais pas passé par là. Et je m'étais dit, déjà, j'avais dit à mon mari, s'il fallait perdre un enfant, ce serait épouvantable. Nous avons 3 filles. Et puis, il est venu chercher celle qui était sauvée, celle qui lui appartenait. Puis, dans ma famille, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi elle. Mais moi, je comprends, parce que je sais maintenant qu'elle est dans la gloire de son grand Dieu, comme elle disait toujours. Et je peux vous dire que même avec la perte de cette fille, je peux vous dire que maintenant, je suis heureuse. Je suis vraiment, c'est une joie de tous les jours. Chaque matin, chaque soir, je remets ma vie entre les mains de Dieu, puis je lui dis... Seigneur, tu es, ma fille est avec toi, mais maintenant c'est nous, mes 2 autres filles qui ne sont pas sauvées et qui sont très réceptifs là, à la parole de Dieu et qui aiment en entendre parler. Mais un jour, je sais qu'il va faire des choses extraordinaires. Amen. Je vous dis merci pour m'avoir permis de l'avoir partagé à tous ceux
Merci Diane, quelle bénédiction, hein? C'est bon. Peut-être un dernier. Diane, on a eu l'occasion, on a le privilège de l'avoir avec nous dans la cellule. Alors, quel beau témoignage. Alors, nous allons prendre on va faire une prière pour remercier le Seigneur pour les éléments. Oui. Prions, Seigneur. Et peut-être que pendant la prière, vous pouvez... dire à Dieu, Seigneur, comme Diane. Diane a accepté. Diane a dit, Seigneur, ça a été douloureux de perdre ma fille. Mais je l'accepte et change-moi, change ma vie, change mon cœur. Et on voit le fruit aujourd'hui d'une vie qui lui a été dédiée. Prions, Seigneur. Ô Père très saint, Père éternel, on ne peut pas imaginer quelle douleur et quelle souffrance que cette chère Diane a pu connaître l'an passé à la perte de sa fille. Mais toi, certainement, tu connais ça parce que tu as perdu ton fils. On pense aux enfants là, des Baudry qui ont perdu leur grand-papa. Et François, Raymond, qui perdent quelqu'un de très cher. On pense à l'épouse aussi, de Georges, que tu puisses mettre ta main sur elle et la réconforter pendant ces temps d'épreuves et de difficultés. On pense à Colette, qui suit ses traitements de chimio pour son cancer. On pense aux autres personnes dans l'Église qui, en ce moment, sont dans des épreuves douloureuses et difficiles. On pense à d'autres qui, peut-être, éprouvent des difficultés à surmonter les tentations. On pense aussi à d'autres, Seigneur, qui sont dans la souffrance, blessés par l'offense de d'autres personnes et peut-être même dans l'Église. Ô Père, nous prions. Nous prions que tous et chacun, tu puisses nous accorder la grâce d'accepter ces choses dans nos vies et que nous puissions sortir davantage à la ressemblance de Jésus. Façonne-nous, Seigneur, change-nous, même si parfois c'est tellement difficile de subir ces choses, mais comme Jésus, non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Accomplis ta volonté dans nos vies. Et nous voulons prendre cette sainte scène ce matin, nous rappelant comment Jésus a été parfait sur la croix, comment il a pardonné ceux qui l'ont offensé, et comment il a pris sur lui l'offense de plusieurs. Nous prenons cette sainte scène avec action de grâce pour ce beau sacrifice pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Mangeons.